Oh, we welcome you to the General Young Women meeting.
Bienvenue à la réunion générale des jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours par cette belle soirée à Temple Square. Nous sommes réunis au centre de conférence de Salt Lake City et des jeunes filles, accompagnées de leur mère et de leurs dirigeantes, se sont aussi rassemblées dans le monde entier. Thomas Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Je suis Hélène Dalton, présidente générale des jeunes filles. Nous avons le plaisir d'avoir le président Monson et ses conseillers, Henri Ehring et Dieter Uchtdorf, avec nous ce soir. Nous souhaitons la bienvenue à Robert Hales et Neil Anderson du Collège des Douze Apôtres et à Gary Stevenson, évêque président de l'Église. Nous soutenons et honorons ces frères et nous les remercions de leur soutien. Sur l'estrade se trouvent également mes conseillères, Marie-Anne Cook et Anne Dieb. J'aime ces femmes remarquables et je suis reconnaissante de l'occasion que nous avons de servir ensemble. Nous souhaitons la bienvenue aux présidences générales de la Société de secours et de la primaire avec nous sur l'estrade ce soir. Nous sommes reconnaissantes aux femmes exemplaires qui font partie du Bureau général des jeunes filles. Ce sont des femmes justes, vertueuses, qui servent fidèlement en faveur des jeunes filles du monde entier. Nous saluons aussi la présence parmi nous ce soir d'une invitée de marque, Florence Smith Jacobsen, ancienne présidente générale des jeunes filles. Sœur Jacobsen fêtera son 100e anniversaire le week-end prochain pendant la conférence générale. Elle était présidente générale quand j'étais encore une jeune fille. Une grande partie des programmes et événements merveilleux qu'elle a lancés sont toujours une bénédiction pour nous aujourd'hui. Sœur Jacobsen, nous vous rendons hommage et vous remercions de votre exemple merveilleux et durable de fille vertueuse de Dieu. Nous vous souhaitons à toutes la bienvenue, à vous qui êtes dans l'auditoire et aux personnes qui assistent grâce à la télévision, aux satellites, à l'Internet et à d'autres moyens techniques. Nous nous réjouissons de cette occasion d'apprendre ensemble sous la direction de prophètes, voyants et révélateurs. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur de jeunes filles des pieux de Highland et Highland Sud, Utah, sous la direction de Marilee Webb avec Linda Margaret à l'orgue. Le chœur et l'assemblée ouvriront cette session en chantant « Tout au sommet des monts ». Ensuite, Ella Edgley, abbaye de la première paroisse de Parley, fera la prière d'ouverture.
Father,
notre Père céleste, nous, tes filles, rassemblées dans le monde entier pour écouter ta parole, nous te remercions pour le programme des jeunes filles et pour tout ce qu'il fait. Nous te remercions pour nos dirigeantes et pour notre prophète, par lesquelles la révélation nous parvient pour guider notre vie. Merci de la possibilité que nous avons de vivre l'Évangile. S'il te plaît, ouvre notre cœur pour que nous puissions être inspirés par les messages qui vont nous être donnés. Bénis les jeunes filles qui ont des épreuves dans le monde entier. Accorde-nous la force et le courage de défendre nos principes et nos croyances. Permets que nous soyons toujours dans des lieux saints et que nous ne laissions pas ébranler jusqu'à ce que notre Sauveur revienne. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le chœur va maintenant interpréter « Dans le temple » de Sally DeFore, publié précédemment dans le New Era. Après ce chant spécial, nous aurons le plaisir d'entendre Anne Dibb, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Le chœur chantera ensuite « Ah, donne-moi Père » avec Brianna Gibson, l'auréole de la 21e paroisse de Highland, au violoncelle. Marie-Anne Cook, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, s'adressera à nous. Après Sœur Cook, nous aurons une présentation vidéo représentant chacune de vous ainsi que la voix des alliances que nous faisons et respectons dans notre vie.
Jesus.
Notre thème de l'activité d'échange pour 2013 est tiré de la section 87 des Doctrines et Alliances. Cette instruction se trouve dans trois sections distinctes. De toute évidence, cette exhortation est importante. Elle explique comment nous pouvons recevoir la protection, la force et la paix en des temps troublés. Cette instruction inspirée dit « Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler ». En méditant sur ce thème, je ne peux m'empêcher de me demander « Que sont les lieux saints auxquels notre Père Céleste fait référence ?» Ezra Taft Benson a déclaré « Les lieux saints comprennent nos temples, nos églises, nos foyers et les pieux de Sion qui, comme le Seigneur l'a dit, sont pour la défense et pour le refuge. » Notre premier réflexe peut être de considérer le mot « lieu » comme désignant un cadre physique ou un lieu géographique. Mais un lieu peut être une condition, une position ou un état d'esprit particulier. Cela signifie que les lieux saints peuvent aussi désigner des moments déterminés, des moments où le Saint-Esprit nous témoigne, des moments où nous ressentons l'amour de notre Père Céleste ou des moments où nous recevons une réponse à nos prières. Plus encore que cela, je crois que chaque fois que vous avez le courage de prendre la défense de ce qui est juste, en particulier dans des situations où personne d'autre n'est disposé à le faire, vous créez un lieu saint. Tout au long de sa vie, brève mais splendide, Joseph Smith s'est véritablement tenu en des lieux saints et ne s'est pas laissé ébranler. Jeune adolescent, il était troublé par l'agitation religieuse qui régnait dans sa localité et voulait savoir laquelle de toutes les églises était vraie. La zone boisée qui se trouvait près de chez lui est devenue un lieu saint quand il s'est agenouillé au milieu des arbres et a fait sa première prière à voix haute. Il a reçu une réponse à sa prière. Et aujourd'hui, les saints des derniers jours appellent ces bois le bosquet sacré. Dans le monde entier, les jeunes filles se tiennent en des lieux saints, dans la nature, au camp des jeunes filles. Une dirigeante a raconté l'expérience d'une jeune fille. Cette fille n'était pas pratiquante et l'idée d'avoir une expérience spirituelle dans les bois l'a laissée un peu sceptique. Après le premier jour, elle a dit à sa dirigeante, « Je m'amuse beaucoup, mais est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de l'esprit ? Je suis ici pour camper, profiter de la nature, être avec des amis et m'amuser. » Mais à la réunion de témoignage qui terminait le camp, cette même fille, en larmes, a admis, « Je ne veux pas rentrer chez moi. Comment est-ce que je peux avoir ce que je ressens maintenant, cet esprit ?» avec moi tout le temps. Elle avait découvert un lieu saint. Un autre lieu saint de la vie de Joseph Smith était sa chambre. Cela peut être difficile à croire, car comme beaucoup d'entre vous, il partageait sa chambre avec ses frères et sœurs. Elle est devenue un lieu saint quand il y a prié, avec beaucoup de foi, d'humilité et de ferveur. Il explique, « Après m'être mise au lit pour la nuit, je commençais à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant de me pardonner pour tous mes péchés et toutes mes sottises. Les trois années qui s'étaient écoulées depuis que Joseph Smith avait eu la vision dans le bosquet sacré n'avaient pas été faciles. Joseph, qui avait alors 17 ans, avait subi des moqueries, des railleries et des brimades à n'en plus finir. Mais ce soir-là dans sa chambre, l'ange Moroni lui est apparu et s'est adressé à lui en réponse à ses supplications. Joseph a reçu de la connaissance et du réconfort. Cette nuit-là, sa chambre est devenue un lieu saint. En regardant une vidéo de la série Message Mormon pour les jeunes, j'ai vu une autre chambre qui est devenue un lieu saint. La vidéo montre Ingrid Delgado, jeune fille du Salvador, qui parle de ce qu'elle éprouve pour le temple. Elle dit, c'est bien d'avoir un lieu où nous pouvons échapper aux choses du monde, recevoir des ordonnances sacrées et aider les personnes qui n'ont pas pu les recevoir dans cette vie. Tandis qu'elle parle, la vidéo montre Ingrid en train de lire les Écritures dans sa chambre, entourée d'affiches « Vie mormone », de citations, d'un livret « Mon progrès personnel », de photos de sa famille et du temple, et même de ses peluches préférées. Peut-être que, sans même s'en rendre compte, elle a créé son lieu saint à elle, où elle peut s'isoler des choses du monde. Je me demande combien de fois Ingrid a lu ses Écritures, ressenti l'Esprit, prié et reçu des réponses à ses prières dans son lieu saint. Un autre lieu saint inattendu de la vie de Joseph Smith est la prison de Liberty. Jeffrey Holland a déclaré « Il n'y a pas eu dans la vie de Joseph de période plus pénible que celle de cette incarcération cruelle, illégale et injustifiée. » Frère Holland a ensuite expliqué que la prison de Liberty a été qualifiée de « prison-temple » en raison des expériences sacrées que Joseph Smith, le prophète, y a eues. Peut-être certaines d'entre vous, jeunes filles, connaissent-elles leur propre prison de Liberty, une situation dans laquelle elles sont exposées à des humiliations, où elles ne ressentent pas de bonté, où l'on se moque d'elles, les brime, voire les blesse physiquement. Jeunes filles, je vous dédie ces paroles de Frère Holland. Vous pouvez avoir des révélations et des expériences sacrées et profondément instructives avec le Seigneur dans les situations les plus misérables de votre vie, au milieu des injustices les plus pénibles, alors que vous rencontrez les circonstances et l'opposition les plus insurmontables que vous ayez jamais connues. Autrement dit, tout comme Joseph Smith, le prophète, l'a fait, vous pouvez créer des lieux saints et vous y tenir, même dans les moments les plus difficiles que vous ayez jamais vécus. Une jeune adulte, Kirsten, m'a raconté son expérience douloureuse. Le lycée avait été sa prison de Liberty. Heureusement, la salle de l'orchestre lui avait apporté du soulagement. Elle m'a dit, « Quand j'entrais dans cette salle, c'était comme si j'entrais dans un lieu sûr. » Il n'y avait pas de réflexion dégradante ou dévalorisante, pas de grossièreté. Au lieu de cela, ce que nous entendions, c'était des paroles d'encouragement et d'amour. Nous faisions preuve de gentillesse. C'était un endroit heureux. La salle de l'orchestre était remplie de l'esprit, tandis que nous répétions et jouions de la musique. L'atmosphère de cette salle était en grande partie due à l'influence du professeur de musique. C'était un bon chrétien. Avec le recul, je me rends compte que le lycée a été un lieu de purification. C'était difficile, mais j'ai appris la résilience. Je serai éternellement reconnaissante de mon refuge, mon lieu saint, la salle de l'orchestre. Avez-vous pensé à vos lieux saints ce soir? J'ai demandé à des centaines de jeunes filles de me parler de leurs lieux saints. Qu'il s'agisse de lieux géographiques ou de moments déterminés, ils sont tout aussi sacrés et ont une incroyable capacité de fortifier. Voici 9 de leurs réponses touchantes. 1. J'étais à la maternité, tenant mon nouveau petit frère. 2. Chaque fois que je lis ma bénédiction patriarcale, je sens que mon Père Céleste me connaît et m'aime. 3. Le jour de mes 12 ans, les jeunes filles de la paroisse ont décoré ma porte avec des cœurs en papier. Je me suis sentie aimée, acceptée et heureuse. 4. Un jour, alors que je lisais les Écritures, une phrase m'a sauté aux yeux. C'était la réponse à mes prières. 5. Je suis allée à une soirée où des personnes buvaient. L'Esprit m'a dit de faire demi-tour et de rentrer chez moi. C'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, il y a eu des conséquences sociales. Mais cette occasion m'a donné l'assurance dont j'avais besoin pour savoir que je pouvais vivre l'Évangile. 6. Un dimanche pendant la Sainte Cène, je pensais à l'expiation. J'ai compris que je devais pardonner à quelqu'un contre qui j'étais en colère. Ma décision de pardonner était une action positive qui ferait opérer l'expiation dans ma vie quotidienne. 7. Après avoir assisté avec moi à la rentrée des jeunes filles, ma mère m'a embrassée sur la joue et m'a dit qu'elle m'aimait. Pour autant que je me souvienne, c'était la première fois qu'elle le faisait. 8. Avec l'assurance de mon évêque, j'ai su que la promesse des Écritures était vraie. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cela m'a donné de l'espoir et j'ai pu entreprendre le long processus du repentir. Enfin, un soir, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire part à ma meilleure amie de mes sentiments concernant l'Évangile et lui donner un livre de Mormon. Plus tard, j'ai eu la bénédiction d'assister à son baptême. Maintenant, nous assistons ensemble aux réunions de l'Église. Je vais vous parler de l'un de mes lieux saints. Un jour, je me sentais accablée, effrayée, totalement seule. J'ai fait cette prière silencieuse. Père Céleste, je ne sais pas comment faire cela. Aide-moi, s'il te plaît. Peu après, quelqu'un s'est approché à l'improviste, a posé la main sur mon épaule et m'a adressé quelques paroles d'encouragement sincères. À ce moment-là, je me suis sentie en paix. Je me suis sentie reconnue. Tout avait changé. Les paroles de Spencer Kimball me sont venues à l'esprit. Dieu nous remarque et il veille sur nous. Mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Pour moi, cette situation était devenue un lieu saint. Chère jeune fille, il y a d'innombrables autres lieux saints dont j'aurais bien voulu que nous puissions parler ce soir. Je vous recommande, quand vous rentrerez chez vous, de noter dans votre journal les situations que vous reconnaissez ou dont vous vous souvenez comme étant des lieux saints. Il est clair pour moi que des milliers d'entre vous se tiennent en des lieux saints. Ces lieux vous apportent protection, force et paix en ces temps troublés. Votre témoignage grandit et se renforce parce que vous défendez la vérité et la justice par des moyens simples et magnifiques. Vous, nobles jeunes de l'Église, vous êtes mes héroïnes. Je vous aime. Je ressens l'amour incroyable que notre Père Céleste a pour vous. Je vous témoigne que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai. Il attend, prêt à vous soutenir quand vous vous tenez en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. J'aime et je soutiens le président Monson, notre prophète fidèle et encourageant. Je dis cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est un honneur de m'adresser à vous, vaillante jeune fille de l'Église. Nous vous voyons progresser sur le chemin des gens qui respectent leurs alliances et nous savons que votre vie vertueuse sera une bénédiction pour vos ancêtres, pour votre famille actuelle et pour les membres de votre famille à venir. Car, comme l'a dit le président Hinckley, en sauvant une jeune fille, vous sauvez des générations. Lorsque vous vous êtes fait baptiser et que vous avez reçu le don du Saint-Esprit, vous êtes entré sur le chemin de l'Alliance. Il se poursuit chaque semaine à la réunion de Sainte-Seine, un lieu saint où vous renouvelez l'Alliance de votre baptême. Le moment est maintenant venu de vous préparer à contracter les alliances du Temple. Les ordonnances et les alliances sacrées que l'on peut accomplir dans les saints temples permettent aux personnes de retourner dans la présence de Dieu et à notre famille d'être unies éternellement. Tenez-vous en des lieux saints pour vos ancêtres. Tout être humain qui vient sur la terre est le résultat de générations de parents. Nous aspirons naturellement à nous rattacher à nos ancêtres. En participant à l'histoire familiale et à l'œuvre du temple, vous tissez votre vie dans celle de vos ancêtres en leur permettant de contracter les ordonnances salvatrices. Tenez-vous en des lieux saints pour vous-même et pour votre famille immédiate. Votre exemple de justice sera la source d'une grande joie, quelle que soit votre situation familiale. Les choix justes que vous faites vous permettront de contracter et de respecter des alliances sacrées qui lieront éternellement les membres de votre famille. Tenez-vous en des lieux saints pour votre future famille. Engagez-vous à être scellé à votre mari par la sainte prêtrise dans le temple pour commencer une cellule familiale éternelle. Vos enfants auront la vérité en bénédiction parce que vous intégrerez votre exemple vertueux et votre témoignage inébranlable à leur vie et que vous les conduirez sur le chemin de l'Alliance. J'ai vu ces principes éternels ressortir lors du récent concours artistique international pour les jeunes. Megan Warner Taylor a composé numériquement une œuvre photographique par une approche moderne de la parabole du Christ sur les 10 vierges. J'ai rencontré Megan. Elle m'a expliqué le symbolisme de la 10e vierge, qu'elle décrit comme une jeune fille vertueuse et pleine de foi, prête à contracter et à respecter les alliances sacrées du temple. Tout comme pour toutes les vierges sages, elle s'est préparée en ajoutant de l'huile à sa lampe, une goutte à la fois, en menant constamment une vie juste. J'ai remarqué sa magnifique tresse. Megan a expliqué que sa tresse représente la vie vertueuse de cette jeune fille qui se tisse dans d'innombrables générations. Une mèche est l'expression de son amour et de son respect pour ses ancêtres. La deuxième, l'influence juste qu'elle exerce sur sa famille actuelle. Et la troisième, l'intégration de sa vie de femme accomplie dans celle des générations à venir. J'ai rencontré une autre jeune fille dont la préparation spirituelle précoce a tissé sa vie de justice dans de nombreuses générations. Un bel après-midi de septembre, mon mari et moi attendions au temple de participer à des ordonnances. Chris, un ami à nous, est entré dans la salle. C'était un plaisir de voir ce jeune homme qui était récemment rentré de sa mission en Russie. La session allait commencer quand une jolie jeune fille s'est assise à côté de moi. Elle était radieuse, souriante, pleine de lumière. Je voulais faire sa connaissance, alors je me suis discrètement présentée à elle. Elle m'a chuchoté son prénom, Kate, et quand elle m'a dit son nom de famille, cela m'a rappelé une famille qui avait vécu au Michigan, où la mienne avait habité autrefois. Kate était leur fille, devenue adulte, qui est rentrée 5 semaines plus tôt de sa mission en Allemagne. Pendant la session, une pensée ne cessait de me venir à l'esprit. Présente Kate à Chris. J'ai mis cette inspiration de côté en me demandant quand ou comment. Tandis que nous nous préparions à partir, Chris est venu nous dire au revoir. Alors j'ai saisi cette occasion. J'ai fait venir Kate et j'ai chuchoté. Vous êtes deux jeunes gens vertueux qui devaient faire la connaissance l'un de l'autre. Je suis partie du temple, certaine d'avoir agi selon mon inspiration. Sur le chemin du retour, mon mari et moi avons parlé de nos souvenirs des épreuves qui étaient arrivées à la famille de Kate. J'ai depuis appris à mieux la connaître et elle m'a aidée à comprendre les raisons de l'air joyeux qu'elle arborait au temple ce jour-là. Elle a toujours essayé de rester sur le chemin de l'Alliance en recherchant les lieux saints. Elle a été élevée dans un foyer où la soirée familiale, la prière ensemble et l'étude des Écritures faisaient de sa maison un lieu saint. Enfant, elle a appris ce qu'est le temple et le chant « Oh, j'aime voir le temple » était l'un de ses préférés pour la soirée familiale. Petite fille, elle a vu ses parents montrer l'exemple de ce qu'est rechercher le lieu saint en allant au temple le soir, en fin de semaine plutôt qu'au restaurant ou au cinéma. Elle aimait tendrement son père et il a utilisé son autorité de la prêtrise pour l'aider à contracter la première allance du baptême. Puis, elle a reçu l'imposition des mains et a reçu le Saint-Esprit. Elle dit, « J'étais enthousiaste à l'idée de recevoir le Saint-Esprit et je savais qu'il m'aiderait à rester sur le chemin de la vie éternelle. » À 14 ans, elle est entrée au lycée et a adoré le séminaire, un autre lieu saint où étudier l'Évangile. Un jour, son instructeur a commencé à parler des épreuves et leur a assuré qu'ils en auraient tous. Elle s'est dit, « Je ne veux pas avoir d'épreuves, je ne veux pas entendre cela. » À peine quelques semaines plus tard, son père s'est réveillé très malade le dimanche de Pâques. Elle m'a dit, « Mon père était un homme en excellente santé. Il avait couru le marathon. Ma mère était si alarmée de le voir aussi malade qu'elle l'a emmené à l'hôpital. Dans les 36 heures qui ont suivi, il a eu une violente crise cardiaque qui a bloqué presque tout son corps. Il pouvait cligner des yeux, mais le reste de son corps ne répondait pas. Je me rappelle l'avoir vu et avoir pensé, « C'est pas vrai. Voilà que cela m'arrive. » Mon instructeur du séminaire avait raison. J'ai une épreuve. Son père est décédé quelques jours plus tard. Elle a poursuivi. C'était si dur. On ne veut jamais perdre son héros. Je savais que je pouvais faire de cette épreuve un tremplin pour progresser, ou la laisser être un obstacle. Je ne voulais pas que cela gâche ma vie, parce que je n'avais que 14 ans. J'ai essayé d'être le plus proche possible du Seigneur. Je lisais beaucoup mes Écritures. Le chapitre 40 d'Alma m'a assuré que la résurrection était réelle et que, grâce à l'expiation du Christ, je pourrais retrouver mon Père. J'ai beaucoup prié. J'ai écrit dans mon journal aussi souvent que je le pouvais. J'ai gardé un témoignage fort en l'écrivant. Chaque semaine, j'allais à l'église et aux jeunes filles. Je m'entourais de bons amis. Je restais proche des membres attentionnés de ma famille, surtout de ma mère, qui était l'ancre de notre famille. J'ai demandé des bénédictions de la prêtrise à mon grand-père et à d'autres détenteurs de la prêtrise. Ces choix répétés, comme ceux de la Vierge sage, ont ajouté de l'huile à la lampe de Kate. Elle était motivée par son désir de retrouver son père. Elle savait que son père connaissait ses choix et elle ne voulait pas le décevoir. Elle voulait une relation éternelle avec lui et elle comprenait qu'elle devait rester sur le chemin de l'Alliance pour que sa vie reste fermement attachée à la sienne. Les épreuves n'ont cependant pas cessé. Elle avait 21 ans et elle venait d'envoyer sa candidature pour sa mission quand on a diagnostiqué un cancer chez sa mère. Kate devait prendre une décision importante. Devait-elle rester à la maison et soutenir sa mère ou aller en mission? Sa mère a reçu une bénédiction de la prêtrise qui lui promettait qu'elle survivrait à sa maladie. Rassurée par cette bénédiction, Kate est allée de l'avant avec foi et a poursuivi son projet de partir en mission. Kate dit, « C'était partir à l'aveuglette, mais pendant ma mission, la lumière est finalement arrivée et j'ai reçu la nouvelle que la bénédiction de ma mère s'était accomplie. J'étais si heureuse de ne pas avoir retardé mon service pour le Seigneur. Je pense que quand des choses difficiles arrivent, il est facile de stagner et de ne pas vouloir vraiment aller de l'avant. Mais quand on place le Seigneur en premier, l'adversité peut mener à de merveilleuses bénédictions. On peut voir sa main et assister à des miracles. » Kate a fait l'expérience de la réalité des paroles du président Monson. Nos plus grandes occasions se trouveront lors de nos plus grandes difficultés. Kate avait ce genre de foi parce qu'elle comprenait le plan du salut. Elle savait que nous avons déjà vécu, que la terre est un temps d'épreuve et que nous vivrons de nouveau. Elle avait la foi que sa mère serait bénie. Mais d'après son expérience avec son père, elle savait que, si sa mère décédait, tout irait bien. Elle dit, non seulement j'ai survécu à la mort de mon père, mais c'est devenu une facette positive de mon identité. Et si ma mère m'avait été enlevée, cela l'aurait été également. Cela aurait intégré un plus grand témoignage de ma vie. Kate recherchait un lieu saint le soir où je l'ai rencontrée au temple. Désirant intégrer fermement les relations éternelles qui viennent du service au temple, elle a suivi l'exemple de ses parents. en allant régulièrement au temple. Il ne s'est pas passé grand-chose le soir où j'ai présenté Kate à Chris, mais en recherchant un autre lieu saint le dimanche suivant, Kate a vu parmi des centaines de jeunes adultes seuls à une veillée de l'Institut. Là, ils ont fait plus ample connaissance. Quelques semaines plus tard, Chris l'a invité à regarder la conférence générale avec lui. Pendant qu'ils se fréquentaient, ils ont continué à rechercher des lieux qui invitaient l'esprit et ont finalement été scellés au temple, le lieu saint où ils se sont rencontrés. Ils s'acquittent actuellement de leur responsabilité sacrée de parents, intégrant leur témoignage du plan de salut à la vie de trois petits garçons en leur montrant le chemin de l'Alliance. En sauvant une jeune fille, vous sauvez des générations. La décision qu'a prise Kate à 14 ans de rester sur le chemin, d'ajouter régulièrement de l'huile à sa lampe et de se tenir en des lieux saints a sauvé et va sauver des générations. La recherche de ses ancêtres et son service au temple ont uni son cœur au leur. Faites l'histoire familiale et l'œuvre du temple et cela entrelacera vos cœurs et donnera à vos ancêtres la possibilité de la vie éternelle. Vivez l'Évangile dans votre foyer. Cela ajoutera aussi de l'huile à votre lampe et apportera dès à présent de la force spirituelle à votre foyer et bénira votre future famille d'innombrables façons. De plus, comme l'a dit Robert D. Hales, si l'exemple que nous avons reçu de nos parents n'était pas bon, nous avons la responsabilité de rompre le cycle et d'enseigner de bonnes traditions pour les générations futures. Décidez maintenant de faire tout ce que vous pouvez pour remplir votre lampe, pour que votre témoignage et votre exemple ferme s'intègrent à la vie de nombreuses générations passées, présentes et futures. Je témoigne que votre vie vertueuse sauvera non seulement des générations, mais aussi votre vie éternelle, à vous, parce que c'est le seul moyen de retourner à votre Père Céleste et de trouver la vraie joie maintenant et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you.
J'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes vu. Vous avez vu vos choix justes et l'avenir merveilleux qui vous attend, tandis que vous continuez de faire et de respecter des alliances sacrées. Une seule jeune fille vertueuse, guidée par l'Esprit, peut changer le monde. Je vais maintenant avoir l'honneur de vous parler. À la fin de mon discours, le chœur chantera « Rocher du salut suprême ». Ce soir, à cette chair, en ce lieu saint et en présence de prophètes, voyants et révélateurs, et de filles royales de Dieu, c'est une époque magnifique pour être sur terre et pour être une jeune fille. Vous êtes les élus, les filles élues du Seigneur. Il aime chacune de vous et je vous aime aussi. Sur mon bureau, j'ai la sculpture en bronze d'une jeune fille dont le nom est Christina. La sculpture grandeur nature originale de Christina se trouve sur une jetée à Copenhague, au Danemark. Elle est orientée pour regarder au-delà de la mer, vers Sion. Sa décision de se joindre à l'église et de quitter son foyer n'a pas été facile, et vous pouvez voir des vents contraires souffler violemment contre elle. Elle tient bon, faisant quelque chose de très difficile, mais qu'elle sait être juste. Ses descendants ont placé sa sculpture sur cette jetée pour lui rendre hommage, car la décision qu'elle a prise ce jour-là a une importance éternelle pour des générations. Pour moi, cette sculpture représente chacune d'entre vous. Comme elle, vous êtes sur le point de prendre de nombreuses décisions importantes et vous faites chaque jour des choix, parfois difficiles, qui façonneront non seulement votre avenir, mais aussi la destinée de générations. Vous aussi, vous faites face au vent violent de l'opposition, de l'adversité, de la pression des autres et de la pollution morale. Et pourtant, vous restez immuable et vous vivez l'Évangile malgré les tempêtes qui font rage dans notre société. Comme Christina, vous êtes guidée par le Saint-Esprit. Vous prenez de bonnes décisions. Vous êtes loyale et vous êtes royale. Je ne vois pas de conseil plus important émanant d'un Père céleste aimant que l'exhortation qu'il lance à chacune de vous. Tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. Il dit, soyez immuables, soyez constantes, défendez la vérité et la justice, soyez un témoin, soyez la lumière pour le monde, tenez-vous dans des lieux saints. Ainsi, mon message à chacune de vous est simple, ne vous laissez pas ébranler. Premièrement, ne vous laissez pas ébranler en choisissant le bien. En ces derniers jours, il n'y a pas de petites décisions. Les choix que vous faites maintenant ont une importance primordiale. Le libre arbitre, la capacité de choisir, est l'un des plus grands dons que Dieu a fait à ses enfants. Il fait partie du plan du bonheur que vous et moi avons choisi et défendu dans notre existence primordiale. Vivez de telle manière que vous puissiez écouter et entendre le Saint-Esprit, et il vous aidera à prendre de bonnes décisions. Il vous dira toutes les choses que vous devez faire. Il y a plusieurs semaines, je suis retournée pour la première fois depuis des années dans mon ancien lycée. J'assistais à une conférence de pieux qui se tenait dans l'auditorium du lycée. Tandis que je marchais dans ces couloirs, un flot de souvenirs m'est venu à l'esprit. Je me suis souvenue exactement de ce que je ressentais quand, jeune fille, j'y allais. J'étais sans assurance, je n'avais pas confiance en moi, j'étais complexée, je désirais tellement m'intégrer. Je suis entrée dans l'auditorium. Là encore, un flot de souvenirs m'est venu à l'esprit. Chaque détail de cet auditorium m'était familier. La seule chose qui avait changé, c'était moi. Ce jour-là, j'ai eu l'occasion de me tenir sur l'estrade comme je l'avais fait tant de fois au lycée quand j'étais déléguée de classe. Dans l'assemblée, j'ai même revu d'anciens camarades de classe, dont certains avec qui j'étais sortie. Mais cette fois, au lieu de diriger la réunion, J'avais le privilège, là, dans l'auditorium de mon lycée, d'être un témoin et de rendre mon témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Jeunes filles, assurez-vous que vos relations avec les autres sont telles que, dans 40 ans, vous ne serez pas embarrassées. Ni la pression des autres, ni l'approbation, ni la popularité ne méritent de faire un compromis. Votre influence sur les jeunes gens les aidera à rester dignes du pouvoir de leur prêtrise, des alliances du Temple et du service missionnaire. Et qui sait, dans 40 ans, il se peut que l'un d'eux vienne vous voir dans l'auditorium de votre lycée pour vous remercier de l'avoir aidé à rester digne d'accomplir ses devoirs de prêtrise pour faire une mission honorable. Et qui sait, vous pouvez même recevoir la lettre de la femme d'un de ces jeunes gens vous remerciant de l'influence que vous avez eue au lycée sur son mari et leur future famille. Vos choix comptent. Vos choix d'aujourd'hui n'ont pas que des conséquences pour vous. Ils en ont aussi pour les autres. Ils ont une importance éternelle. Tenez-vous dans des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. Deuxièmement, ne vous laissez pas ébranler dans votre désir et votre engagement de rester vertueuse et sexuellement pure. Chérissez la vertu. Votre pureté personnelle est l'une de vos plus grandes sources de pouvoir. En venant sur terre, vous avez reçu le don précieux d'un corps. Votre corps est l'instrument de votre esprit, un cadeau divin grâce auquel vous utilisez votre libre arbitre. C'est un don qui a été refusé à Satan et c'est pourquoi il dirige presque toutes ses attaques contre votre corps. Il veut que vous dédaigniez votre corps, que vous le maltraitiez et que vous en fassiez mauvais usage. L'impudicité, la pornographie, l'immoralité, les tatouages et les piercings, la drogue et les dépendances de toutes sortes sont des efforts pour prendre possession de ce don précieux qu'est votre corps et pour vous empêcher d'exercer votre libre arbitre. Paul demande, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous habite ?» Votre corps est un temple. Pourquoi ? Parce qu'il a la capacité d'héberger non seulement votre esprit éternel, mais aussi les esprits éternels des enfants qui viendront sur terre dans votre famille éternelle. Darlene Oaks a enseigné, « Le pouvoir de créer la vie ici-bas est un pouvoir sublime. » Vous avez un rôle sublime. Dieu vous a confié un dépôt sacré. Vous vous préparez à être les futures mères des générations à venir. Gardez-vous pur et digne et protégez ce qui est le plus cher et le plus précieux, la chasteté et la vertu. Le sage conseil que notre Père Céleste vous donne, à vous personnellement, ses fils élus, est de marcher dans les sentiers de la vertu devant lui. La vertu est la clé d'or qui ouvre les portes du temple. C'est pourquoi, troisièmement, ne vous laissez pas ébranler en étant digne de contracter les alliances sacrées du temple et de les respecter. L'alliance que vous faites à votre baptême vous gardera sur le chemin de la vertu et du bonheur du fait que vous la renouvelez chaque semaine en prenant la Sainte Cène. Si vous respectez l'alliance de votre baptême, vous aurez un aspect différent. Vous vous habillerez différemment et vous agirez différemment du monde. Le respect de cette alliance vous permettra d'être guidé par le Saint-Esprit. Tenez-vous en des lieux saints et ne vous approchez même pas des endroits ou de la musique, des médias ou des personnes qui peuvent vous faire perdre la compagnie du Saint-Esprit. Et en respectant vos alliances, vous resterez digne et préparé pour entrer dans les saints temples du Seigneur. Enfin, ne vous laissez pas ébranler dans votre acceptation de l'expiation du Sauveur. L'expiation est pour vous et pour moi. C'est un pouvoir habilitant et rédempteur. Si vous ne vous sentez pas digne de vous tenir en des lieux saints, ne portez pas ce fardeau un jour de plus. Dans la condition mortelle, nous commettons tous des fautes. Soyez assurés que le Sauveur vous aime tellement qu'il vous a donné la possibilité de changer et de vous repentir si vous commettez une faute. Satan ne veut pas que vous pensiez que vous pouvez changer. Il essaiera de vous convaincre que tout est perdu. C'est un mensonge. Vous pouvez revenir. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez être pure et sainte grâce à l'expiation infinie du Sauveur. Laissez-moi terminer par l'une des plus grandes histoires d'amour jamais racontées. Vous pourriez vous demander, qu'est-ce qu'une histoire d'amour a à voir avec se tenir en des lieux saints? Cela a tout à voir avec se tenir en des lieux saints. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Rebecca. Dans cette histoire, Abraham envoie son serviteur trouver une jeune fille digne d'être la femme de son fils Isaac. Elle doit être qualifiée pour un mariage dans l'Alliance, être vertueuse, pure et digne. Il envoie donc son serviteur faire un voyage long et périlleux jusqu'à un endroit appelé Charan. Il doit aller là-bas pour une raison très claire. Un homme saint a besoin d'une femme sainte à ses côtés. En approchant de la ville de Charan, le serviteur s'arrête à un puits pour abreuver ses chameaux et il prie pour être guidé vers cette jeune fille qu'il reconnaîtra quand elle lui proposera de les abreuver, lui et ses 10 chameaux. Je suis moi-même montée sur un chameau, et s'il y a bien une chose que je sais, c'est qu'ils boivent beaucoup d'eau. Dans la Genèse, nous lisons que Rebecca non seulement descend au puits pour prendre de l'eau, mais qu'elle court ou se dépêche pour accomplir cette tâche. Le serviteur met alors des bracelets et des bijoux sur Rebecca et lui demande s'il y a de la place pour lui dans la maison de son père. Je suis sûre que les bijoux ont aidé. L'Écriture dit, la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca devait être une sportive. Le serviteur explique à la famille de Rebecca le but de son long voyage et Rebecca accepte de devenir la femme d'Isaac. Le serviteur désire repartir le lendemain avec Rebecca, mais sa famille la supplie de rester avec elle au moins 10 jours de plus. Elle demande ensuite à Rebecca ce qu'elle veut faire et elle répond simplement « J'irai ». Cette réponse ne vous rappelle-t-elle pas celle de milliers qui ont résolument répondu « J'irai et je ferai » quand notre prophète Thomas Monson a annoncé que les jeunes gens et les jeunes filles avaient maintenant la possibilité de partir en mission à un plus jeune âge? Passons à la morale et à la fin de cette histoire d'amour. Rebecca était préparée et digne de contracter et de respecter des alliances sacrées et de devenir la femme par alliance d'Isaac. Elle n'a pas eu besoin d'attendre ni de se préparer. Avant de quitter sa famille, elle reçut une bénédiction dont les mots me touchent parce qu'on lui promit qu'elle deviendrait la mère de milliers de myriades. Mais la meilleure partie de cette histoire d'amour, c'est quand Rebecca et Isaac se sont vus pour la première fois. On ne le dit pas dans la Bible, mais je pense que cela a été le coup de foudre. Car la vertu aime la vertu, et la lumière s'attache à la lumière. Quand Isaac alla au devant de la caravane, Rebecca descendit de son chameau. Puis il est dit, et il l'aima. C'est là que je pousse un soupir. Pour Rebecca et Christina, cela n'a pas été facile de se tenir en des lieux saints. Cela n'a pas été facile de ne pas se laisser ébranler. Les vents soufflaient violemment, l'eau du puits était lourde et quitter son foyer, son ancienne vie, n'ont certainement pas été facile. Mais elles ont fait les bons choix. Elles ont été guidées par le Saint-Esprit, elles étaient vertueuses et elles se sont préparées à contracter et à respecter des alliances sacrées. Le Sauveur descend de la lignée de Rebecca. Savait-elle alors que cela se produirait? Non. Vos choix d'aujourd'hui comptent-ils? Oui. Jeunes filles, des générations dépendent des choix que vous faites, de votre pureté, de votre dignité. Ne vous laissez pas ébranler. Une grande destinée vous attend. Le moment est venu. Je crois véritablement qu'une seule jeune fille vertueuse, guidée par l'Esprit, peut changer le monde. Je témoigne que le Sauveur vit. Il sera avec vous. Il vous aidera. Et dans les moments difficiles, ses anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. What a glorious blessing. Quelle magnifique bénédiction et quel honneur que de s'être rassemblés dans la force de la jeunesse. Merci aux jeunes filles du cœur d'avoir rendu leur témoignage par la musique. J'espère que nous nous souviendrons toujours des sentiments que nous avons éprouvés ce soir et des conseils inspirés qui nous ont été donnés. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé ce soir, en parole comme en chant, et toutes celles qui, de différentes manières, ont permis que cette réunion ait lieu. Nous aurons maintenant l'occasion d'écouter Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur clora cette réunion en chantant « Let Zion in her beauty rise ». Ensuite, Emily Maxwell, l'auréole de la paroisse de Sterling Heights, fera la prière de clôture.
Nous avons ce soir l'honneur de la présence du président Monson, notre prophète bien-aimé. Président, nous prions toujours pour vous. Mes chères sœurs, merci de la musique et des messages. Ils étaient inspirants et tout à fait en rapport avec Pâques, l'événement sacré que nous célébrons cette semaine. C'est une joie d'être avec vous, précieuses jeunes sœurs, ainsi qu'avec vos mères et vos remarquables dirigeantes. Vous avez un esprit radieux et un sourire contagieux. Le Seigneur se soucie vraiment de vous et vous observe avec amour du haut des cieux. J'ai grandi à Zwickau, dans l'ex-Allemagne de l'Est. Quand j'avais 11 ans, mon père, dissident politique, était de plus en plus surveillé. Et mes parents ont estimé que le seul choix sûr pour notre famille était de nous enfuir en Allemagne de l'Ouest. Il a été décidé que le meilleur plan serait de partir à différents moments, de prendre différentes routes vers l'Ouest et de laisser tous nos biens derrière nous. Comme mon père était celui qui courait le plus de risques, il a pris le chemin le plus rapide par Berlin. Mes grands frères ont pris la direction du nord et chacun est passé à l'ouest par ses propres moyens. Ma sœur, qui devait avoir le même âge que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, a pris un train qui passait brièvement en Allemagne de l'ouest avec Helga Wassmann, son instructrice des jeunes filles et d'autres personnes. Elles ont payé un employé pour leur déverrouiller l'une des portes. Une fois que le train a eu dépassé la frontière de l'Allemagne de l'Ouest, elles ont sauté en marche vers la liberté. Comme j'admirais ma sœur pour son courage. J'étais le cadet et ma mère avait décidé qu'elle et moi traverserions à pied une chaîne de montagnes séparant les deux pays. Je me souviens qu'elle emballait un casse-croûte comme si nous allions faire une randonnée ou un pique-nique dans les montagnes. Nous avons pris un train aussi loin que possible, puis nous avons marché de longues heures, nous rapprochant de plus en plus de la frontière de l'Allemagne de l'Ouest. Les frontières étaient strictement contrôlées. Nous avions une carte, nous savions à quelle heure et à quel endroit nous pourrions peut-être passer en toute sécurité. Je sentais l'anxiété de ma mère. Elle observait intensément la région pour voir si nous étions suivis. À chaque pas, ses jambes et ses genoux semblaient faiblir. Tandis que nous escaladions une dernière colline qui n'en finissait pas, je l'ai aidé à porter son sac lourd rempli de nourriture, de documents importants et de photos de famille. Elle pensait certainement que nous avions franchi la frontière maintenant. Quand elle sentit enfin à l'abri, nous sommes assis à mon pique-nique. Je suis sûr que pour la première fois ce jour-là, elle respirait plus à l'aise. Ce n'est alors que nous avons remarqué le panneau de la frontière. Il était encore loin devant nous. Nous pique-niquions du mauvais côté de la frontière. Nous étions toujours en Allemagne de l'Est. Les gardes frontières pouvaient surgir d'un moment à l'autre. Ma mère a frénétiquement rangé notre déjeuner et nous avons monté la côte aussi vite que nous le pouvions. Cette fois, nous n'avons pas osé nous arrêter tant que nous n'étions pas sûrs d'avoir atteint l'autre côté de la frontière. Bien que chaque membre de notre famille ait pris une route différente et connu de difficultés très différentes en chemin, nous sommes tous arrivés à bon port. Notre famille a enfin été réunie. Quel jour merveilleux cela a été. Je viens de vous raconter une expérience personnelle qui est pour moi un voyage très précieux. Je peux regarder en arrière et prendre conscience de plusieurs voyages que j'ai faits au cours des années. Tous n'impliquaient pas traverser des chaînes de montagnes ou des frontières politiques, mais certains de surmonter des épreuves ou de progresser spirituellement. Mais c'était tous des voyages. Je crois que chaque vie est une collection personnelle d'histoires de voyages. Je suis certain que vous savez que chaque tradition culturelle est riche d'histoires de voyages. Par exemple, vous connaissez peut-être le voyage de Dorothy, de son chien Toto, de le magicien d'Oz. Dorothy et Toto sont pris dans une tornade et atterrissent au pays d'Oz. Là, Dorothy trouve la route de briques jaunes distinctes qui marque le chemin d'un voyage qui l'amènera finalement chez elle. Il y a aussi, bien sûr, Ebenezer Scrooge, le personnage de Charles Dickens, dont le voyage ne l'emmène pas d'un endroit à l'autre, mais d'une période à l'autre. C'est un voyage à l'intérieur de son cœur qui l'aide à comprendre pourquoi il est devenu comme il est et à voir ce qui lui arriverait s'il restait sur ce chemin d'égoïsme et d'ingratitude. L'un des grands romans classiques de la littérature chinoise est « Le pèlerinage vers l'Ouest », écrit au XVIe siècle. Il raconte merveilleusement bien le pèlerinage plein d'aventures d'un moine qui, avec l'aide de quatre personnages amicaux, fait un voyage qui le mène à la sagesse. Et bien sûr, il y a Bilbo Sacket, petit hobbit modeste qui aurait préféré de beaucoup rester chez lui et manger sa soupe. Mais quelqu'un frappe un jour à sa porte. Il répond à l'appel vers l'inconnu et part dans le monde avec un magicien et un groupe de nains pour accomplir une mission dangereuse, mais d'importance capitale. Est-ce que nous n'aimons pas ces histoires de voyage parce que nous imaginons que nous sommes les voyageurs? Leur succès et leurs échecs peuvent nous aider à retrouver notre chemin dans la vie. La vidéo que nous avons vue il y a quelques minutes raconte aussi une belle histoire de voyage. Peut-être ces histoires nous rappellent-elles aussi une histoire de voyage que nous devrions tous connaître. Une histoire dans laquelle chacun de nous joue un rôle important. Cette histoire commence il y a très longtemps, bien avant que la Terre ne commence à tourner sur son orbite, bien avant que le Soleil n'atteigne de ses bras enflammés la froideur de l'espace, bien avant que de grandes et petites créatures n'aient peuplé notre planète. Vous viviez dans un endroit beau et lointain. Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la vie dans l'existence prémortelle. Mais nous en connaissons certains. Notre Père Céleste nous a révélé qui il est, qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Dans ce premier état, vous saviez avec certitude que Dieu existait, parce que vous le voyiez et l'entendiez. Vous connaissiez Jésus-Christ, qui allait devenir l'agneau de Dieu. Vous aviez foi en lui, et vous saviez que votre destin n'était pas de rester dans la sécurité de votre foyer prémortel. Même si vous aimiez cette sphère éternelle, vous saviez que vous vouliez et deviez faire un voyage. Vous alliez quitter les bras de votre Père, traverser le voile de l'oubli, recevoir un corps mortel et apprendre et vivre des choses qui vous aideraient à progresser pour devenir plus semblable à votre Père Céleste et retourner en sa présence dans cet endroit sacré, entouré des gens que vous connaissiez et aimiez. La grande question que vous aviez sur les lèvres et dans le cœur devait être « Retournerai-je saine et sauve dans mon foyer céleste ?» Il y avait tant de choses qui ne dépendraient pas de vous. La vie de la condition mortelle sera difficile parfois, et la route remplie d'embûches inattendues, la maladie, le chagrin, les accidents, les conflits. Sans le souvenir de votre précédente existence, sans vous souvenir que vous aviez marché avec votre Père Céleste autrefois, pourriez-vous toujours reconnaître sa voix parmi tous les bruits et toutes les distractions de la condition mortelle? Le voyage à venir semblait long et incertain, rempli de tant de risques. Il n'allait pas être facile, mais vous saviez que chaque effort en vaudrait la peine. Vous étiez donc au bord de l'éternité, regardant vers l'avenir avec un enthousiasme, un espoir inexprimable, et j'imagine aussi avec une certaine dose d'inquiétude et de peur. À la fin, vous saviez que Dieu serait juste, que sa bonté triompherait. Vous aviez participé au grand conseil des cieux et saviez que le Sauveur fournirait un moyen pour que vous soyez purifiés du péché et sauvés de la mort physique. Vous aviez foi qu'à la fin, vous vous réjouiriez et lèveriez la voix avec un cœur céleste pour changer des louanges à son saint nom. Alors, vous avez pris une grande inspiration et fait un grand pas en avant. Et vous voilà. Vous vous êtes toutes embarquées dans votre merveilleux voyage pour retourner dans votre foyer céleste. Maintenant que vous êtes ici, sur la terre, serait sage de vous demander comment se passe votre voyage. Êtes-vous sur la bonne route? Devenez-vous la personne que vous deviez être et vouliez être? Faites-vous des choix qui vous aideront à retourner auprès de votre Père Céleste? Il ne vous a pas envoyé faire ce voyage pour que vous erriez sans but, seul. Il veut que vous reveniez auprès de lui. Il vous a donné des parents aimants et des dirigeants de l'Église fidèles, ainsi qu'une carte qui décrit le terrain et identifie les dangers. Cette carte vous montre où trouver l'appel bonheur et vous aide à organiser votre voyage de retour. À présent, où pouvez-vous trouver cette carte? Dans les Écritures sacrées, dans les paroles des prophètes et des apôtres, et dans la révélation personnelle qui vous parvient par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cette carte est l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle et le chemin joyeux du disciple du Christ. Ce sont les commandements et l'exemple donné par notre avocat et notre maître qui connaît le chemin parce qu'il est le chemin. Bien sûr, le fait d'avoir une carte ne vous fera aucun bien si vous n'étudiez pas, si vous ne l'utilisez pas pour trouver votre chemin dans la vie. Je vous invite à faire de l'étude et de l'application de la parole de Dieu une haute priorité. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit pour qu'il puisse vous diriger tout au long de votre voyage de la vie. Votre carte est remplie de messages encourageants et instructifs de votre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 de ces messages qui vous aideront à réussir votre voyage de retour. Le premier message, ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Votre Père Céleste vous connaît. Même quand personne d'autre ne vous entend, lui vous entend. Quand vous vous réjouissez dans la justice, il se réjouit avec vous. Quand vous êtes cerné par les épreuves, il a de la peine avec vous. L'intérêt de votre Père Céleste pour vous ne dépend pas de votre richesse, de votre beauté, de votre santé, de votre intelligence. Il ne vous voit pas tel que le monde vous voit. Il vous voit tel que vous êtes réellement. Il regarde à votre cœur et il vous aime parce que vous êtes son enfant. Chères sœurs, recherchez-le sérieusement et vous le trouverez. Je vous le promets, vous n'êtes pas seul. Maintenant, prenez un moment et regardez les personnes qui vous entourent. Certaines sont vos dirigeantes, vos amis ou des membres de votre famille. D'autres sont peut-être des personnes que vous n'avez jamais vues. Quoi qu'il en soit, chaque personne qui vous entoure dans cette réunion, comme partout ailleurs, aujourd'hui comme n'importe quand, a été vaillante dans le monde prémortel. La personne d'apparence modeste et ordinaire à côté de vous a peut-être été une personne que vous aimiez et admiriez dans le monde des esprits. Vous avez peut-être été un tel exemple vous-même. Vous pouvez être sûr d'une chose. Chaque personne que vous voyez, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa morphologie ou son apparence, est de votre famille. La jeune fille que vous regardez a le même Père Céleste que vous. Elle a quitté sa présence aimante, tout comme vous, désireuse de venir sur terre et de vivre de manière à pouvoir un jour retourner auprès de lui. Toutefois, elle peut se sentir seule, tout comme vous parfois. Elle peut même parfois oublier le but de son voyage. S'il vous plaît, rappelez-lui, par vos paroles et vos actes, qu'elle n'est pas seule. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. La vie peut être difficile, elle peut endurcir le cœur, au point que certaines personnes semblent impossibles à atteindre. Certaines ont peut-être de la colère en elles, d'autres peuvent se moquer et railler les gens qui croient en un Dieu aimant. Mais réfléchissez à ceci. Même si elles ne s'en souviennent pas, à un moment donné, elles ont, elles aussi, désiré ardemment retourner auprès de leur Père Céleste. Vous n'avez pas la responsabilité de convertir qui que ce soit. C'est le travail du Saint-Esprit. Votre responsabilité est de parler de vos croyances et de ne pas avoir peur. Soyez amical envers tous, mais ne transigez jamais sur vos principes. Restez fidèle à vos convictions et à votre foi. Tenez-vous droite, parce que vous êtes une fille de Dieu et qui se tient à vos côtés. Deuxième message, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes-vous déjà demandé quelle langue nous parlions tous quand nous vivions à la présence de Dieu? J'ai la forte impression que c'était l'allemand. Mais je suppose qu'on ne peut pas en être sûr. Mais je sais que dans notre vie prémortelle, nous avons appris directement du Père, de notre esprit, une langue universelle, une langue qui a le pouvoir de surmonter les barrières émotionnelles, physiques et spirituelles. Cette langue, c'est l'amour pur de Jésus-Christ. C'est la langue la plus puissante au monde. L'amour du Christ n'est pas un amour fin. Ce n'est pas l'amour d'une carte de vœux. Ce n'est pas le genre d'amour que l'on glorifie dans la musique ou les films de succès. Cet amour entraîne un vrai changement de mentalité. Il peut percer la haine et dissoudre l'envie. Il peut guérir le ressentiment et éteindre le feu de l'amertume. Il peut faire des miracles. Nous avons reçu nos premières leçons dans cette langue d'amour en tant qu'esprit, en la présence de Dieu. Et ici-bas, nous avons l'occasion de la pratiquer et de la maîtriser. En évaluant ce qui motive vos pensées et vos actions, vous savez si vous apprenez ce langage d'amour. Quand vos pensées principales sont centrées sur les avantages que vous pouvez retirer des choses, vos motivations sont peut-être égoïstes et superficielles. Ce n'est pas cette langue-là qu'il faut que vous appreniez. Mais quand votre attitude et vos pensées principales sont centrées sur le service de Dieu et des autres, quand vous désirez vraiment faire du bien aux gens qui vous entourent et les édifier, alors le pouvoir de l'amour pur du Christ opère dans votre cœur et dans votre vie. C'est cette langue-là qu'il faut que vous appreniez. Une fois que vous maîtrisez bien cette langue et que vous l'utilisez dans vos relations avec les autres, ils vont reconnaître quelque chose en vous qui peut éveiller en eux le sentiment longtemps caché de recherche du bon chemin pour leur voyage de retour vers leur foyer céleste. Après tout, le langage de l'amour est aussi la vraie langue maternelle. Cette influence profonde et durable est une langue qui atteint l'âme même. C'est une langue de compréhension, une langue de service, une langue qui édifie, réjouit et réconforte. Apprenez à employer la langue universelle de l'amour du Christ. Et le troisième message, prenez courage. Ne nous arrive-t-il pas de perdre patience en voyant où nous en sommes notre voyage? Si vous avez 12 ans, vous voudriez en avoir 14. À 14 ans, vous souhaiteriez en avoir 18. Et à 18 ans, vous pourriez même occasionnellement souhaiter en avoir de nouveau 12 pour tout recommencer. Et il y aura toujours des choses dont on peut se plaindre. Des choses qui ne semblent pas se passer tout à fait comme il faudrait. Vous pouvez passer vos journées à vous sentir triste, seul, incomprise ou non désirée. Mais ce n'est pas le voyage que vous espériez. Et ce n'est pas le voyage que votre Père Céleste vous a envoyé faire. Souvenez-vous, vous êtes vraiment une fille de Dieu. Avec cela à l'esprit, je vous invite à marcher avec confiance et joyeusement. Oui, la route a des embûches, des détours et comporte même des dangers. Mais ne vous concentrez pas sur cela. Recherchez le bonheur que votre Père Céleste a préparé pour vous à chaque étape de votre voyage. Le bonheur est la destination, mais c'est aussi le chemin. La paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir est ce qu'il promet. C'est pour cela qu'il nous commande de prendre courage. En utilisant joyeusement la carte que votre Père aimant vous a fournie pour votre voyage, vous élèverez votre potentiel céleste. Vous deviendrez la fille de Dieu que vous espériez devenir. Chères sœurs, chères jeunes filles de l'Église, chers jeunes amis, en tant qu'apôtre du Seigneur, je vous donne la bénédiction que vous trouverez votre chemin de ce voyage de retour au foyer et que vous serez une inspiration pour les autres voyageurs. Je vous promets aussi, et je prie pour cela, qu'en honorant et en respectant les alliances, les principes et les valeurs de l'Évangile de Jésus-Christ, si vous faites cela, votre Père Céleste sera là à la fin de votre voyage et vous prendra dans ses bras. Et vous saurez une fois pour toutes que vous êtes rentrés sains et saufs à la maison. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Thank you.
Notre Père Céleste, nous te remercions de la possibilité que nous avons eue de nous rassembler ici dans le centre de conférence et partout dans le monde. Merci des messages que nous avons entendus. Nous te remercions pour le programme des jeunes filles, pour les conseils et l'inspiration que nous recevons. Nous te demandons de nous accorder force et courage. Aide-nous à défendre ce que nous savons être juste. Faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.